Et vous écoutez France Culture. Je peux vous avouer avec certitude que quand je vais mourir, c'est-à-dire lorsque je verrai ma vie défiler devant mes yeux, il y aura sans aucun doute possible une image de Brigitte Lahaie. J'en suis convaincu. J'ai tellement rêvé d'elle dans mon adolescence qu'elle est ancrée en moi. Fabrice Duvels. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, heureux et ému d'accueillir en effet ce soir celle qui fut de vibrations sexuelles et hurlements d'extase, la blonde Vénus de l'écran érotique et pornographique français, Brigitte Lahaie elle-même, et ce à l'occasion de la somptueuse monographie que lui ont consacrée aux éditions Glénat, Cédric Grandguillot et Guillaume Ledissage. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Bonsoir Brigitte Lahaie.
Bonsoir à tous.
Bienvenue dans Mauvais Genre, émission où vous en doutez bien, vous ne comptez que des amis, je dirais même voire des disciples. Alors, vous pensez parfois justement à ces millions de personnes qui emmèneront une image de vous au dernier jour?
Oh, j'en sais rien. Non, j'avoue qu'il y a longtemps que je ne pense plus à ça, non.
Non, vous n'êtes pas...
Je me suis rhabillée il y a longtemps, déjà.
Alors, vous êtes avec nous, je le répète, pour ce livre somptueux, donc on peut le dire, puisque la maison Glénat n'a pas lésiné sur l'apparat pour vous rendre hommage, donc qui paraît chez Glénat, éditeur d'habitude consacré plus dévolu à la bande dessinée, donc de Cédric Grandguillot, Guillaume Ledissage. Comment s'est passée un peu l'histoire du livre? On est venu vous voir en vous disant que quelque chose se préparait,
Francis Mishkin, qui est le producteur de beaucoup de mes films X, m'a un jour envoyé un mail en me disant « Écoute, il y a deux personnes qui ont envie de te rencontrer pour faire un livre. » Et comme j'ai confiance, parce que Francis Mishkin a toujours bien protégé mon image, j'ai rencontré ces deux personnes, Guillaume et Cédric, et c'est comme ça qu'est née cette aventure assez étonnante, parce que c'est 2 ans de travail. Ils ont fait un travail extraordinaire, et ils ont retrouvé des choses que j'avais complètement oubliées. Et je trouve que c'est un livre qui rend bien hommage à ma personnalité et à cette époque-là. Je crois que c'est ça qui est important aussi. C'est une époque particulière qui n'existe plus aujourd'hui.
Alors on peut dire que c'est un livre d'or, à la fois par sa couleur, puisqu'elle est totalement jaune, qui correspond à votre blondeur célèbre, et puis en même temps, alors effectivement, on rend hommage, je dirais, à tous les aspects de votre vie, puisqu'il y a l'actrice, il y a également l'écrivain, il y a la femme de radio. Là, vous êtes un peu entre confrères. On est content de recevoir une confrère. Donc, ce livre, on va s'en servir pour découvrir un peu plus précisément et puis engager le débat autour de votre carrière d'actrice. Un débat qui s'engagera bien évidemment avec Christophe Beer.
Bonsoir, François.
Alors, premier film de Brigitte Lahaie que vous avez vu, c'est lequel, monsieur Beer? Puisque vous êtes un encyclopédiste et l'auteur d'un fameux dictionnaire du cinéma érotique et pornographique. Est-ce qu'on peut faire appel à vos souvenirs?
Je répondrai à la question en disant celui que je préfère. C'est certainement Je suis à prendre, et aussi un film qui n'est pas cité dans le livre, que j'adore, Je suis une belle salope, qui est un film de... Alors c'est vrai qu'on est souvent rebuté par les titres des films. Le titre initial était Fantasmagorique et beaucoup plus beau. C'était un film écrit par Didier-Philippe Gérard.
Michel Barnier,
qui est un film très mélancolique et qui, je trouve, ressemble vraiment beaucoup au personnage qui me touche le plus dans les films pornographiques que vous avez joués.
Et réalisé par qui, Christophe?
Michel Barnier. Ah, oui. Il était signé Gérard Vernier, mais Didier-Philippe Gérard était l'assistant, et c'est lui qui faisait le film.
Je ne crois pas que c'était Didier-Philippe Gérard qui avait réalisé ce film.
Il l'a écrit, en tout cas.
Oui, mais ce n'est pas lui qui l'avait réalisé.
C'était Gérard Vernier.
Je me souviens plus, mais je sais que ce n'est pas Didier-Philippe Gérard.
C'était un très beau film. C'était une démarcation du magnifique. Un personnage de secrétaire qui petite secrétaire dans une agence de publicité qui se met à fantasmer, à rêver.
Mais en fait, je crois que c'est René Château qui l'avait sorti en vidéo.
Oui,
c'est certainement pour ça que...
C'est René Château qui l'a sorti.
Ils ont fait l'impasse sur ce film.
Ah, c'est dommage.
Voilà, vous êtes entré érudit.
Mais oui,
mais il y a, en revanche, dans le livre, il y a Je suis à prendre, qui est d'ailleurs, je crois, aussi votre film préféré.
Oui, sans doute, oui, sans doute.
Eh bien, on va en
parler. De Francis Leroy.
Présent également ce soir, on l'a entendu, il est là, Philippe Rouillet.
Bonsoir.
Ému de rencontrer Brigitte Lahaye,
j'imagine. Bien sûr, mais j'avais déjà rencontré à l'époque où je travaillais pour Vertige et Pulsion avec Henri Gigoux.
Vertige et Pulsion.
Ouais, voilà. Ça, c'est on peut en dire un mot, Vertige et Pulsion.
Ah, c'était une revue dite de charme qui a duré 36 numéros.
Aujourd'hui collector.
Et absolument collector, et qui traitait aussi de cinéma, de genre, un petit peu. C'est-à-dire qu'on pouvait voir à la fois Brigitte Lahaye et Sylvester Stallone à l'affiche d'un même numéro, et je trouvais ça très vivifiant. Alors, c'était au mi-temps des années 80.
Philippe Rouillet, qui était au festival de Gérardmer, donc
absolument.
Dont on peut dire quelques mots rapides.
Eh bien, le grand jury et le jury de la critique que j'avais l'honneur de présider se sont mis d'accord pour décerner leur prix à Grave, le film de Madame Julia Ducournau.
On espère bien recevoir dans cette émission au moment de la sortie,
15 mars. Au 15 mars, qui est un film vraiment très très important sur ce que c'est que l'identité, sur ce que c'est que la monstruosité et l'humanité du monstre. C'est-à-dire que le principe du film est de nous présenter une jeune fille, de nous la rendre sympathique, elle est étudiante vétérinaire, et quand on découvre sa caractéristique, sa monstruosité, est-ce que nous, spectateurs, on va garder notre sympathie pour elle? Évidemment, la mise en scène fait qu'on doit normalement la garder.
Garder l'empathie. Vos hagiographes, Brigitte Lahaye, ont réparti en par pourcentage votre production d'actrice. Alors, il y a 7% dans le cinéma.
J'adore ce dessin. Ça m'a beaucoup surprise d'ailleurs. Je ne savais pas que j'avais fait autant de films autres que X.
Absolument. Et il y a 7% de cinéma fantastique et d'horreur. C'est une production que vous suivez un peu. Vous allez voir des films d'horreur, des films fantastiques.
À l'époque, j'étais très fan des films d'horreur. Et aujourd'hui, je ne peux plus en voir un. Ça me fait vraiment trop peur. J'aime
le
pas,
réalisme. Excessif.
Ouais, mais j'ai adoré les films d'horreur.
C'était quoi vos auteurs favoris d'horreur?
Tous, aussi bien Vendredi 13 que la Nuit des Morts Vivants ou même Massacre à la tronçonneuse, que j'ai revu d'ailleurs
surtout
récemment.
Surtout Massacre à la tronçonneuse, qui est un chef-d'œuvre absolu.
Absolument, oui, je l'ai revu il y a un an et ça marche bien encore. Oui.
Alors, participe également à cette émission Céline Duchesnet, bien évidemment, mais elle est en route. Donc, on l'attend et dès qu'elle sera là, eh bien, elle se joindra au débat et nous conclurons et non pas débuterons cette émission, contrairement à la tradition, par l'encyclopédie pratique des mauvais genres qui clôturera votre mauvais genre de ce soir, qui reçoit, je le répète, à l'occasion de la parution de la somptueuse monographie chez Glénat, Brigitte Lahaye. On va jouer un quiz, Brigitte Lahaye, avec vous. Il y a un disque qui est sorti qui comporte une anthologie des musiques de vos films parmi les plus connus, signé Alain Goraguet. Alors celle-là, est-ce qu'elle vous dit quelque chose? On écoute.
Alors, pas du tout. Mais...
Pas du tout.
j'ai pas écouté le disque encore.
Alors justement, écoute, on va peut-être l'occasion de le faire dans la BO de Perversion d'une jeune mariée.
Oui.
Alias le journal intime de Marie-Christine.
D'accord, mais encore, ça ne me dit rien du tout.
Musique de Perversion d'une jeune mariée ou joie. Donc notre invitée de ce soir dans Mauvais Genre, Brigitte Lahaye. Alors, Brigitte Lahaye, votre carrière dans l'écran X, c'est 76-80.
C'est ça, exactement.
À peu près, là, oui, voilà. Oui. Mais j'aimerais qu'on parle de ce qu'il y avait avant. Quel était votre rapport avec la culture érotique avant d'en devenir une star?
Écoutez, j'étais une jeune fille de bonne famille et on pourrait penser que rien ne m'amenait au cinéma X. Mais quand même, après, j'ai travaillé sur moi-même pour comprendre. Mon père était un passionné de curiosa, donc je pense qu'il y a quand même anguille sous roche. Voyez.
Le passionné de curiosa, ces curiosa, il les cachait. Vous les avez découvertes par hasard.
Il les cachait à moitié, je dirais. Mais je ne sais pas, j'ai pas le souvenir si je pouvais tomber dessus quand j'étais petite. Mais en tout cas, mon père était passionné d'érotisme. Et d'ailleurs, j'ai récupéré à sa mort des tas de livres qui sont des livres rares, quoi. Donc, voilà.
Alors, passionné d'érotisme, c'était un érotisme visuel ou textuel?
Textuel. Oui, ouais. De toute façon, à l'époque, il n'y avait pas de films pornographiques. Mm-hmm. Je vous parle des années
70. Oh, avant
70.
Ou certaines revues.
Ah oui, oui. J'ai notamment un Kama Sutra avec des gravures qui sont tout à fait explicites, oui. Mm-hmm. Mais non, j'ai tourné mon premier film X. J'avais dû avoir deux ou trois amants maximum. Cela dit, pour l'époque, c'était déjà pas mal, oui. mais je parle de 75, 76, mais j'étais vraiment assez naïve même, d'ailleurs,
Et quand même, il y a cette idée que vous montez à Paris, en quelque
tout
sorte,
à fait, oui,
avec quand même l'ambition de quoi, de comédienne
L'ambition de faire quelque chose de ma vie, en fait. Je détestais le milieu un peu petit bourgeois dans lequel j'étais.
En province,
milieu du
trouvais,
Nord.
Que je trouvais coincé, que je trouvais... J'avais vraiment pas envie d'être... je m'excuse pour tous les notaires qui peut-être nous écoutent ce soir. J'avais pas envie d'être femme de notaire avec trois ou quatre gosses, quoi. C'était pas ça ma vie. Pour moi, ça devait être autre chose. Alors après quand on étudie un peu le transgénérationnel du côté de ma mère, on peut comprendre aussi qu'il y avait une sorte de désir de prouver qu'une femme peut être libre et peut assumer sa sexualité. Donc voilà, c'est ça mon parcours, en fait.
Parce que dans votre autobiographie, vous évoquez vos
moi,
premières années.
Moi,
la scandaleuse chez Philippe Aki, qui
épuisé,
est sortie il y a...
Ça va rendre des gens malheureux. Oui.
Non, mais non, au contraire, ça va pousser les éditeurs à le rééditer.
Oui, ça, c'est un livre à rééditer. Et quand vous parlez de votre enfance et de votre adolescence, il y a ce qui en ressort, c'est une sorte de prison, enfin de corset éducatif. Donc il y avait certainement, enfin vous l'expliquez très bien, une volonté de se libérer et peut-être de chercher un épanouissement et même donc une transgression par rapport à cette éducation que vous avez eue.
Absolument, oui, absolument. J'ai eu envie de revendiquer cette possibilité de vivre ses pulsions, de vivre tout simplement. D'ailleurs, je peux vous raconter une anecdote qui va vous amuser. J'ai très vite, tout au début, quand j'ai tourné mes deux premiers films, j'ai côtoyé un monde plus libertin, hein, et j'ai rencontré Alphonse Boudard, avec qui je suis devenue très proche, parce que c'était quelqu'un de particulièrement brillant. Et il me disait, mais attends, arrête, mets une perruque, ne tourne pas ça au grand jour. Et je me souviens, c'était pour moi essentiel de m'afficher au grand jour, voilà, quoi, ouais. D'être ce qui à l'époque était complètement inconscient, quoi.
Avec quand même un pseudonyme. Brigitte Lahaie n'était pas votre vrai nom.
Oui, mais parce que mon vrai nom, il est imprononçable. C'est un nom.
Après, le pseudonyme, c'était Brigitte Simonin, c'est ça?
Non, ça, c'est après.
C'est venu après.
C'est après.
Ce qui est amusant, c'est le nom de la religieuse de Diderot. Là aussi, on retrouve le milieu du 18e, le libertinage.
Oui, c'est vrai. Mais
et des films de couvent.
C'était le nom de famille d'un grand amour. Donc, je pense pas. Mais enfin, bon, après, l'inconscient. Ouais.
Alors, vos débuts au cinéma ne se sont pas faits directement dans le rôle, dans les rôles, dans les figures d'actrice, mais vous étiez doublure corps au départ.
Un film.
Ouais. Un film. Alors c'est quoi doublure corps?
C'est-à-dire que quand j'ai commencé donc en 76, il y avait eu beaucoup de films érotiques italiens qui avaient été tournés, mais qui n'avaient pas de séquences pornographiques. Et donc pour que ces films marchent, parce que c'était vraiment il y avait que la pornographie qui marchait en 76, il fallait rajouter des séquences pornographiques. Donc on a utilisé mon corps. Mon corps, mon sexe, hein, surtout, pour rajouter des raccords pornographiques dans un film italien. Alors, me demandez
peut-être
pas.
Plusieurs films, même. Parce que les raccords.
Peut-être, oui.
La tradition
oui.
était de les utiliser.
Peut-être. Mais personne n'a retrouvé. Bon, ça restera. Incognito.
Amis auditeurs, si vous avez des informations, nous sommes preneurs.
Nous sommes preneurs. Mais alors, comment se sont passés vos débuts, alors, justement, dans ce monde? Comment intègre-t-on le monde du cinéma X, Brigitte Lahaye?
En fait, j'ai répondu à une annonce. À un moment donné, j'avais été à des castings pour être mannequin. Et à chaque fois, on me disait, non, vous avez trop de poitrine, vous êtes trop petite, enfin, etc. Puis un jour, je lis dans France Soir une annonce recherchant femme à forte poitrine. Bon, bah c'était pour moi donc. Et je vais dans un bureau sur les Champs-Élysées et je rencontre quelqu'un qui me montre sur une petite vidéo ce qu'on attendait de moi. Bon, j'avais jamais vu évidemment d'image pornographique de ma vie, mais je me suis dit bon, c'est pour moi, voilà. Et j'ai tourné comme ça mes premières séquences raccord.
Alors vous me dites, c'est pour moi. Qu'est-ce qui vous a à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé en vous à ce moment pour avoir ce sentiment que c'était pour vous? Parce que c'est quand même à l'époque quelque chose d'un petit peu...
Ah, c'était très marginal, c'était très mauvais genre.
Voilà, c'était le mauvais genre incarné. Alors le fait de vous dire, c'est pour vous, est-ce que vous avez senti que là, il y a eu en vous depuis toutes ces années une espèce de parcours qui fait que vous aboutissiez là et que voilà, l'heure avait sonné ou que brusquement, il y a eu une découverte soudaine qui...
Mais vous savez, c'est ce qui est toujours très étonnant quand on regarde sa vie, on voit qu'au moment quand on est très jeune, il va y avoir des choses qu'on va faire alors que ça n'a absolument aucun sens. Et en fait, ça répond, je crois, à ce qui est vraiment en nous et je trouve qu'il faut le faire. Bien sûr que ça a bouleversé ma vie et que c'était vraiment une sorte de chemin complètement différent de ce que ma vie devait être. Mais je pense que c'était important que je le fasse. Et j'ai eu cette sensation, cette sorte d'intuition profonde, mais qui m'est arrivée plusieurs fois dans ma vie après. Tout d'un coup, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse, même si tout le monde... Par exemple, quand j'ai eu l'idée d'écrire « Moi, la scandaleuse », tout le monde me disait « N'écris pas ce livre, tu vas encore redonner le bâton pour te faire battre. » Et en fait, ce livre m'a apporté une seconde notoriété. Donc, vous voyez, je sentais que c'était pour moi, même si ça paraissait, comme ça, vu de l'extérieur, complètement stupide.
Oui, c'était assez audacieux parce que par rapport aux précédentes comédiennes qui ont commencé en 1974-75, c'était une époque où il n'y avait pas encore la loi X. Donc, c'était une époque où la pornographie se rattachait à une sorte d'ambiance post-68arde ou très libertaire. Et vous êtes arrivé un tout petit peu après, quand le ghetto s'était vraiment installé. Donc on peut presque voir là une démarche encore plus audacieuse que Sylvia Bourdon, par exemple, ou Claudine Beccari. Là, vous saviez, en 76, que vous étiez dans un carcan, dans un ghetto, un véritable mauvais genre. Alors qu'en 75... Vous avez côtoyé les cinéastes de cette époque, là, les tout premiers pionniers. Ils étaient dans une démarche de liberté.
Bien sûr. Oui, mais en même temps, c'est un peu l'impression que j'ai eue très vite sur les tournages. On avait cette impression-là, même si on était en effet dans un ghetto. Et en même temps, il y avait un côté transgressif peut-être encore plus excitant. Parce qu'au fond, on faisait quelque chose d'une manière très souterraine. Et ça, c'est encore plus excitant, finalement.
Mais surtout que j'ai l'impression que jusqu'en 81, jusqu'à l'arrivée de la gauche et de Jacques Lang, qui va durcir la loi X, il y a une tolérance. Moi, j'étais en province, il y avait une salle qui passait régulièrement le samedi soir un film X. Et voilà, et c'était comme ça. Et je ne pense pas qu'ils étaient taxés régime. Il y a une tolérance.
Vous avez raison, Philippe. À la fois, il y avait cette tolérance. Il y avait même des prix qui étaient décernés, des phallus d'or, etc. Et puis, c'était quand même encore très, très marginal, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien... Moi personnellement, je pouvais très bien être entouré de gens qui ignoraient mon statut de star du X. Ceux qui le savaient, c'est ceux qui allaient voir les films. Et c'est ça qui est complètement difficile à comprendre aujourd'hui pour les gens, parce qu'il y avait vraiment... les films n'étaient diffusés que dans des salles très spécialisées. Donc si on n'allait pas voir de pornographie, on pouvait pas me reconnaître, quoi.
En plus, il y avait une interdiction d'affichage. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait un affichage, mais qui était sans le casting, etc.
Donc, c'est ça, juste le titre. C'est pour ça que les titres étaient très racoleurs, d'ailleurs.
Oui. Pas de nom de metteur en scène, pas de nom d'interprète. Les noms d'interprètes, c'était dans Periscope qu'il fallait les trouver. Mais est-ce que déjà, entre amateurs, se murmurait le nom de Brigitte Lahaye ou d'autres comédiens, comédiennes
Alors c'est difficile pour moi de savoir si j'étais déjà très reconnue. En tout cas, j'étais très sollicitée par les metteurs en scène. J'avais vraiment le choix de tourner les films que j'avais envie de tourner.
Parce que ça, c'est ma question. Comment ça se décidait que vous fassiez, tiens, là un Bernard Robert, là un Francis Leroy?
On m'appelait, on me proposait tel film. Par exemple, j'ai refusé de tourner avec Michel Ricault parce que je trouvais que ces films étaient un peu trop fort, trop hard. J'avais pas envie. Au début, je pouvais pas, mais après, très vite, je pouvais refuser de tourner avec un acteur.
Alors, vous parliez de titres racoleurs et évocateurs. On vous propose la musique d'un d'entre eux, Autostoppeuse en chaleur.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Voilà la musique d'Autostoppeuse en chaleur, l'un des films où brilla notre invitée de ce soir, Brigitte Lahaye. Il y a des films d'ailleurs sélectionnés dans leur anthologie filmographique par les auteurs de la monographie qui paraît sur vous, Brigitte Lahaye, aux éditions
et
Glénat.
Disponible nous... chez Alpha France, peut-être, il faut le dire, François, voilà. Parce qu'un certain nombre des films dont on parle...
Blue One
sont disponibles en DVD.
Ça, on dira à la fin. On fera nous-mêmes notre filmographie personnelle à la fin de l'émission. Donc, nous a rejoint Céline Duchesnay. Bonsoir, Céline.
Oui, bonsoir, François.
Donc, l'encyclopédie sera ouverte à la fin de l'émission, exceptionnellement. Et donc, il connaissait déjà Brigitte Lahaye.
Oui, parce que je vous avais rencontré Brigitte, justement, dans le cadre de cette chronique, l'encyclopédie pratique des mauvais genres, pour savoir ce que représentait ce terme de mauvais genre pour vous. Et on avait notamment parlé de vous m'aviez parlé de votre goût pour l'exhibitionnisme. Je me souviens qu'on avait longuement évoqué ce sujet-là et ce que la caméra provoquait en vous, cette montée de plaisir qui montait en vous.
Absolument, je confirme.
Je me demandais d'ailleurs si ce n'était pas aussi un de vos moteurs pour tourner dans ces films.
En tout cas, la première fois où j'ai tourné une scène, j'en ai un souvenir très 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 clair. Oui, j'ai eu une sorte de montée de plaisir et d'ailleurs j'avais des rougeurs partout et c'était pas loin d'un orgasme, oui.
Qu'on voit pendant tous vos premiers films. On en a encore dans Belle d'un soir.
Sans doute, oui. Après, vous savez, c'est comme tout, hein, on a un fantasme, une fois qu'on l'a réalisé, ça devient banal, hein.
Et là, vous, pour l'exhibitionnisme, en fait, vous, dans votre autobiographie, vous parlez aussi de ce plaisir qu'on peut éprouver à être filmé, donc à être devant une équipe. Et donc, en retenant un soupir, je tournais la tête et surpris une partie de l'équipe, des techniciens qui me fixaient intensément. Je lus dans leurs yeux un désir et une excitation qui me comblèrent. Vous faites référence à votre tout premier tournage. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que certains cinéastes ont su capter, d'ailleurs. Des scénarios sont entièrement bâtis sur ce goût de l'exhibition. Je pense à un film... Alors, c'est assez amusant, je ne cite que des films qui ne sont pas dans le livre, mais... Est-ce que vous vous souvenez de ce film tourné en Dordogne? Alors, le titre, c'était « Inonde mon ventre ». Bon, c'est un film de Maxime de Best.
Et oui, je me souviens.
C'est
un
très beau film. Vous jouiez le rôle d'une...
Avec Vatier, je crois.
Jean-Louis Vatier, oui. Et vous étiez une épouse... disons modèle, mais qui rechignait un peu au devoir conjugal qu'il faisait du bout des lèvres. En fait, vous alliez dans une petite auberge tenue par une dame avec Désiré Bastaro, qui était un peu là pour aider cette dame.
On peut dire qu'il est Désiré Bastaro,
le nain, oui. Voilà. Votre rôle consistait, vous vous déshabillez, vous vous montriez sur scène devant un parterre de spectateurs qui n'avaient pas du tout le droit de vous toucher. Vous jouissiez de cette exhibition à visage découvert. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur votre goût de la transgression. Et cette dame qui tenait cette auberge insistait souvent pour que vous portiez un masque. Vous refusiez. Je trouve que le scénario avait vraiment
saisi quelque chose. Profonde.
Oui, tout à fait. C'était passionnant.
Hein, je ne suis plus exhibitionniste.
Oui, Brigitte Lahaye.
Oui.
Bah, effectivement, donc vous souvenez du François. Film, mais est-ce que c'est effectivement un élément, l'exhibitionnisme était un élément déterminant?
Mais vous savez, je crois pas qu'on puisse être actrice de film pornographique sans cette dimension exhibitionniste qui est souvent d'ailleurs une réparation d'une blessure, hein, bien sûr. Mais sinon on est call girl ou prostituée, je veux dire, soyons clairs. Donc c'est forcément ce besoin de s'afficher et d'avoir le regard de l'autre qui fait qu'on va devenir actrice de films pornographiques.
Et est-ce que cette personne qui a écrit ce scénario, en fait, s'est inspirée de vous? Parce que je pense que c'était assez libre, la construction des films. À l'époque, on écrivait un scénario vite fait, on allait voir un producteur.
C'était,
comment ça se passait?
C'était quand même écrit. Enfin, je veux dire, on avait un scénario et il y avait des scènes et une succession de scènes. Mais... évidemment que j'ai inspiré beaucoup de réalisateurs de par ma personnalité, parce que j'étais authentiquement, sensuellement exhibitionniste. C'était ma vraie nature. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais voulu renier quoi que ce soit, parce que c'était moi. C'était pas, je faisais pas ça pour l'argent, je faisais pas ça pour la gloire. Je faisais ça parce que c'était mon destin à un moment donné de ma vie.
Et quand vous dites que
pour
c'est
votre
écrit...
plaisir,
oui, absolument, oui, absolument.
Quand vous dites que c'est écrit, est-ce que aussi la répartition des scènes est écrite? Par exemple, un film dont on parle dans ce livre, qui est Partie de chasse en Sologne, de Bertrand Barré, vous n'avez qu'une scène. Alors, oui. Est-ce que c'était décidé comme ça, que vous feriez qu'une scène et que le film était construit autour du fait que Brigitte Lahaye, qui était déjà connue à cette époque-là, ne ferait qu'une scène?
Oui, mais absolument. Il faut savoir qu'à l'époque, je touchais des cachets, j'étais au congé spectacle, j'étais une comédienne. Aujourd'hui, je pense que les actrices, les actrices de films pornographiques, elles touchent un peu d'argent par scène. Nous, on touchait des cachets par jour de tournage. Donc, quand on acceptait de tourner, par exemple, dans Partie de chasse en Sologne, je savais que j'avais 3 jours de tournage ou 2 jours, enfin je me souviens plus évidemment, et j'ai toujours mes fiches de paye j'ai des droits retraite pour l'époque où j'ai tourné mes films pornographiques. On était considérés comme des
actrices,
absolument comme des comédiennes. On avait ce statut-là qui a disparu avec l'arrivée de la vidéo, j'imagine.
Est-ce que dans le livre, Claude Bernard Aubert explique quelque chose de très passionnant sur ce statut de star, et puis dans le film suivant, il y a une scène comme dans Partie de chasse en Sologne. Il explique que les spectateurs des salles X voulaient sans cesse du renouvellement. Et conscient de ça, Claude Bernard Aubert et d'autres cinéastes voulaient en fait vous préserver ou préserver une certaine longévité dans votre carrière en alternant les rôles importants, les rôles principaux de participation. Sinon, peut-être, il y aurait eu une lassitude très, très vite. Enfin, j'avais jamais pris conscience de ça, et c'est quelque chose que j'ai découvert dans le livre, dans l'entretien que Claude Bernard Aubert a accordé.
Il faut dire que c'est très rare, cet entretien. Claude Bernard Aubert n'a jamais donné d'entretien sur Bertrand Barry, donc c'est l'anagramme, puisqu'il c'est sa filmographie X. Il a toujours voulu séparer ça. Et là, dans ce livre, il a accepté de donner, ce sera peut-être le seul entretien écrit qu'on aura de Bertrand Barry.
Brigitte Lahaye, donc effectivement, est-ce que...
Écoutez, j'en sais rien, parce que j'avais de toute façon, tout au long de ces 3 ans que j'ai tourné, j'avais des rôles importants, et quand j'ai décidé d'arrêter, j'ai encore eu des gens qui ont essayé de me convaincre de refaire un film et encore un et encore un, et j'ai eu des propositions aux États-Unis, donc de toute façon, je pense que si j'avais continué, sans doute que ma notoriété aurait été encore plus importante, mais j'avais plus envie, de toute façon, c'était terminé pour moi, et je passais à autre chose.
Céline Duchesnay.
Oui, j'aimerais revenir sur une phrase que vous avez dite, Brigitte Lahaye, quand vous êtes venue présenter votre livre « Moi, la scandaleuse ».
En 87.
Voilà, en 87, le 27 mars, très précisément. Donc, vous parliez donc de ces films pornographiques, et vous avez dit que ça m'a appris à m'aimer.
Et, oui, bien sûr.
Et j'aimerais bien que... revenir là-dessus, apprendre à s'aimer.
Parce qu'en fait, moi, j'étais très complexée quand j'ai commencé à tourner ces films. Je me trouvais pas très belle. Je me trouvais surtout pas désirable. Parce que j'avais un père très froid, qui m'aimait beaucoup, et je l'ai su bien plus tard, mais j'avais ce sentiment de ne pas être femme, quoi. Et ce parcours dans la pornographie avec tous ces hommes qui m'ont désiré, qui m'ont fait l'amour et qui m'ont permise de jouir, m'ont fait me sentir enfin femme et désirable. Après, il a fallu surmonter le regard des autres et la honte qu'on peut avoir d'avoir été en mauvais genre. Mmh. Mais ça m'a énormément aidé. Moi, je le répète, d'ailleurs, je le répète sans arrêt dans mon émission. On devient homme ou on devient femme aussi grâce à sa sexualité et à la manière dont on fait l'amour avec l'autre sexe. Sinon, c'est une femme qui ne s'aime pas, qui ne se sent pas désirable, si en plus elle ne fait pas l'amour, ça ne va pas beaucoup s'améliorer.
Alors, il y a beaucoup de portraits, évidemment, dans cette monographie, Brigitte Lahaye, notamment des partenaires que vous avez eus, Dominique Aveline, dont on peut saluer la mémoire, mmh, alias Le Martien, Richard Allan, Alban Serret, Jean-Pierre Armand. Vous avez tourné énormément de films avec eux. Alors, comment se passe ce type de rapport, puisque c'est une espèce de rendez-vous régulier, comme ça, amoureux et artistique?
Alors, avec amoureux, des amoureux acteurs, je dirais enfin, pas amoureux. Ça, parce que c'est quand même des partenaires sexuels. J'ai jamais été amoureuse d'aucun de mes...
Voilà, ça aussi, c'est une question que je voulais vous poser.
D'aucun de mes partenaires, vraiment. En revanche, j'avais des affinités plus, par exemple, avec Richard qu'avec Alban, ça c'est sûr. Et il y en a avec qui on était très complices. Moi, je sais que Richard, on était très copains. On pouvait échanger des recettes de cuisine entre les prises, par exemple. Et puis, il y en a d'autres avec qui j'avais une complicité plus tendre. Par exemple, Dominique Aveline, c'était un grand tendre sous un aspect comme ça assez monstre. Et puis d'autres avec qui, bon, on tournait la scène et puis voilà tout. Mais c'est vrai que, par exemple, je peux vous raconter une anecdote. J'étais partie à Ibiza tourner je crois que c'était des photos. Hard, je pense pas que c'était un film, avec Alain Plumet. Voilà, vous connaissez mieux, vous êtes formidable. Et je sais que le soir, on s'était retrouvés dans sa chambre, je crois, et on avait commencé à faire l'amour. Et puis tout d'un coup, je trouvais qu'il bougeait vraiment plus beaucoup, quoi. Je me disais, mais mince, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il s'était endormi. Donc vous voyez, on n'était vraiment pas dans des relations passionnelles et amoureuses, quoi.
Mais l'idée de la jouissance était importante, parce que j'ai l'impression, quand on discute avec les hardeurs et les hardeuses aujourd'hui, la question de jouir pendant le métier est absolument exclue.
Mais ça, c'est une protection. Moi, je pense sincèrement, vous savez, c'est comme les prostituées qui disent que de toute façon, elles n'embrassent pas leurs clients et qu'elles ne peuvent pas tomber amoureuses d'un client. Je crois que c'est une manière de se protéger, de se dire, il n'y a que le sexe, il n'y a rien d'autre. Mais je pense que c'est vraiment dommage, parce que moi, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à plusieurs actrices qui ont eu leur petite heure de gloire et qui ont essayé de faire autre chose. Je pense à Laure Sinclair, je pense à même comment elle s'appelle, Clara Morgan. Cette manière de dire bon, j'ai fait ça, mais c'était juste du sexe et j'ai jamais pris de plaisir, je trouve que c'est pas cohérent et je pense que ça leur fait plutôt tort. Moi, je pense que ce qui a aussi fait mon succès, c'est parce que j'ai osé affirmer qu'en effet, on peut, quand on a une relation sexuelle, avoir du plaisir. Je veux dire, je défie toute femme à peu près normale de ne pas avoir un orgasme si elle tombe sur une très bonne langue.
Mais est-ce que ça vient pas aussi de la mise en scène des choses?
Alors, justement, parlons des metteurs en scène.
À l'époque du 35 mm, j'ai l'impression que dans vos films, il y a une économie dans le découpage. Mmh. C'est-à-dire que, comme c'est compliqué d'éclairer un plan... Alors que avec la vidéo, c'est pas les mêmes obligations d'éclairage,
les scènes sont
archi découpées. C'est-à-dire que sur une scène où il y a 40 plans, c'est-à-dire que 40 fois les interprètes doivent changer de position, c'est plus dur, je pense, de jouir que si on vous dit allez-y, prenez quand même une position caméra où on puisse voir quelque chose, mais développer votre rapport, en quelque sorte, on filme, plutôt que, ah bah là, tu t'arrêtes, tu fais ci.
Non, mais là où vous avez raison, c'est qu'à l'époque, les scènes sexuelles, on avait un certain libre arbitre. Il y avait une scène sexuelle, il devait se passer ci, il devait se passer ça, mais on improvisait quand même. Donc quand on improvise, on est assez libre dans son corps.
Et à l'écoute.
Je pense que, en effet, aujourd'hui, d'abord parce que les scènes hard qui sont tournées dans la pornographie actuelle, bah, elles sont quand même assez violentes, donc c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup moins de montée, si je puis dire, de l'acte sexuel. Et les femmes qui tournent aujourd'hui dans des films pornographiques, évidemment, sont certainement moins aptes à pouvoir jouir, ça c'est sûr.
Et les films de cette époque, quand on les revoit, on est aussi frappé par... disons, il y a moins de scènes pornographiques que dans les films d'aujourd'hui. Il y a donc cette montée de l'attente ou du désir, d'une excitation. Elle vient aussi très souvent des scénarios. Par exemple, Je suis à prendre, de Francis Leroy. La première scène pornographique apparaît au bout de 12-15 minutes, ce qui est inimaginable aujourd'hui pour un film pornographique. Donc ça doit faciliter peut-être, j'imagine que dans certains tournages, même des cinéastes aussi brillants que Leroy ou Michel Barny devaient peut-être aussi calculer ça dans un plan de travail, aussi réduit soit-il, de se dire je vais profiter d'une sorte d'attente dans le scénario pour placer dans mon plan de travail telle scène à tel moment, afin que peut-être il y ait un véritable désir qui se crée entre les deux partenaires et arriver à quelque chose.
Oui, Hitler.
Non, mais je pense que jusque dans les années 79, je pense que ça a commencé fin 79, début 80, mais jusqu'à fin 79, c'était des films avec une histoire. Le but n'était pas de montrer du sexe et du sexe et du sexe. C'était d'essayer d'emmener le spectateur dans un imaginaire fantasmatique, érotique, pornographique. Et ça avait cet effet-là, d'ailleurs. Moi, pourquoi aujourd'hui je suis obligée d'attaquer un petit peu la pornographie actuelle, c'est parce qu'elle tue l'imaginaire pornographique, érotique, et elle rend les gens beaucoup plus mauvais dans leur sexualité, alors que ça ne devrait pas être le rôle de la pornographie.
Voilà la musique de nuit brûlante, Céline Duchesnel.
Oui, j'aimerais revenir, Brigitte Lahaie, sur le type de sexualité que proposaient justement ces films. Je pense à une phrase de Benazir Aff qui disait que ces films, il avait dit, c'est ce que tu ne feras jamais avec ta femme. Alors si on regarde par exemple les films de cette période-là, est-ce qu'au niveau des pratiques, au niveau des positions, au niveau des propositions sexuelles, est-ce que ça correspond à une époque? Est-ce que c'est en réaction à un contexte historique? Comment est-ce que vous le voyez avec le recul des années?
Mais en fait, dans ces films-là, on ne faisait pas grand-chose d'autre que ce que tout le monde faisait dans sa chambre à coucher, sauf qu'on le faisait de manière un peu systématique. Mais prenons l'exemple de la fellation. Aujourd'hui, quelle est la femme qui n'a jamais entendu parler de fellation? Tout le monde sait ce qu'est une fellation et beaucoup de femmes la pratiquent de manière assez régulière.
Du moins en Occident.
En Occident, absolument. Mais moi, j'ai souvenir d'avoir entendu de nombreuses femmes me dire « C'est grâce à tes films que j'ai osé faire ma première fellation. » Donc, montrer des fellations à cette époque-là dans les films pornographiques, c'était quelque part apprendre aux Françaises à se libérer un petit peu sexuellement.
Ce qu'on voit d'ailleurs dans les petites écolières où vous avez donc vous êtes une sorte de d'institutrice,
directrice
donc de la pension des Mimosas, et vous donnez des cours, et il y a notamment ce cours de fellation qui est très précis et très technique auprès de ces jeunes femmes. Mais pourtant le public qui regardait les films à l'époque était un public exclusivement masculin. Donc les femmes, non, je ne pense pas que dans le public des cinémas porno les femmes aient eu vraiment accès à ce moment-là, en tout cas dans ces années 76-80.
Non, c'est vrai, mais la vidéo est arrivée assez vite après.
Alors sur le site de Mauvais Genre, on vous voit en infirmière, Brigitte Laisse, et vous revendiquez aussi une fonction thérapeutique dans votre carrière d'actrice. C'est-à-dire, il y a l'esthétique, il y a le cinématographique et il y a le thérapeutique. C'est-à-dire, là on vient d'en parler, il y a aussi une manière de montrer ce qui est envisageable, ce qui est possible, ce qui est érotiquement même souhaitable aux gens qui regardent les films.
Oui, non, mais peut-être. De toute façon, encore une fois, moi, quand j'ai tourné ces films-là, j'avais aucune idée de ce que ça allait représenter plus tard et de tout ce que j'allais transmettre. J'étais là, je tournais mes films, j'étais heureuse, et puis c'est tout.
Alors, j'avais une question à vous poser sur le cinéma de cette époque. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que, à l'intérieur même des récits, il y a une sorte d'embourgeoisement des personnages? C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit Belle d'un soir, qui est un film dans lequel vous jouez, de Claude Mulot, alias Frédéric Lansac, on est en 1977, et il y a l'idée que vous êtes avec deux autres camarades, vous jouez des compagnes de trois des ardeurs de l'époque, et vous en avez ras-le-bol, vous avez ras-le-bol que les types soient poker, au besoin on va avoir une pute, etc. Et vous dites, bon ben nous, les filles, on va faire de notre côté, et le film raconte ça, comment il y a une sorte de communauté de filles qui renverse les valeurs, c'est nous qui allons prendre du plaisir, vous prenez même un esclave sexuel, un homme de ménage,
Dominique
Amelin, voilà, voilà. Et petit à petit, ce personnage-là, vous êtes presque la girl next door, vous êtes une sorte de bonne copine dans le film, vous incarnez ce fantasme-là, et petit à petit, au fur et à mesure de votre carrière, vous allez devenir plus, pour finir sur les petites écolières qui est votre dernier film, ouais. Vous êtes la directrice, vous êtes madame la directrice, mais j'ai l'impression que cette évolution correspond presque à un épanouissement physique de votre part et presque à un épanouissement du genre vers une sorte de...
Mais ce qui est certain, c'est que premiers films que j'ai tournés, j'étais quand même assez gourde. Donc ça aurait été difficile de me donner le rôle des petites écolières, d'une sorte de maîtresse qui sait tout au début de ma carrière. J'étais quand même assez... j'étais pas dégrossie, soyons clairs. Enfin, je veux dire, on voyait bien toute cette naïveté, cette...
Les bonnes joues.
Oui, mais même dans... Enfin, je crois que l'évolution de ma personnalité se traduit bien dans les films. Donc c'est normal que les rôles aient été différents.
Et est-ce que vous pensez que dans le cinéma X, ça a été ça? Parce qu'un film comme Belle d'un soir, comme je citais, on le voit plus dans les années, 2-3 années après.
C'est un film très macho, Belle d'un soir.
Ça finit mal.
Et Frédéric Lansac était assez macho, finalement. Ce qui n'était pas le cas d'autres comme Bert Tambaret ou Francis Leroy. Enfin, c'était quand même parce que même Les petites écolières, c'est un film assez macho, finalement, où il faut apprendre aux femmes à être des geishas, en quelque sorte.
Et d'ailleurs, dans Belle d'un soir, oui. Donc ces femmes qui sont émancipées se retrouvent finalement finissent en prison et se retrouvent après à retrouver leur proxénète,
leur
mâle. Et là, on n'a pas l'impression que la femme que ces femmes aient beaucoup évolué. C'est justement moi ça qui m'intéressait aussi, c'est qu'au moment où ces films sont sortis, on est quand même dans une grande période au niveau de la société française et même internationale. On est dans ce qu'on a appelé après la seconde vague du féminisme, où il y avait quand même un discours féministe qui était très fort, des féminismes. Parce qu'on peut pas les résumer en un seul mouvement. Et je voulais savoir si vous, ça vous a intéressé d'entendre tous ces discours qui étaient sur, par exemple, évidemment, donc l'égalité, mais aussi le plaisir féminin. Je pense à la revue Partisan aussi qui parlait de qui parlait de l'orgasme. Toutes ces thématiques là. Est-ce que vous avez été approché par les féministes? Est-ce que vous avez eu envie de les rencontrer? Est-ce qu'il y a eu dialogue entre vous?
Alors c'est assez curieux parce que j'ai jamais revendiqué personnellement le fait d'être féministe et j'ai même eu des expériences assez difficiles. Je me souviens notamment d'une conférence que j'avais fait à Lyon, ça devait être dans les années 82 je crois. J'avais fini ma carrière d'actrice pornographique, mais j'étais là pour revendiquer la liberté des femmes. Et je me suis fait huer par les femmes féministes qui étaient dans la salle. Et ce sont des hommes qui sont venus me voir, des hommes féministes, qui m'ont dit « Mais vous avez raison, il faut que les femmes se libèrent de leur corps, il faut que les femmes... assume. Aujourd'hui, bon, c'est pareil, je trouve qu'il y a, deux courants féministes. Il y a à la fois ces femmes qui sont, comme moi, qui pensent que la liberté de la femme passe par le clitoris, oserais-je dire. Et puis il y a ces féministes, et j'ai beaucoup débattu contre elles, d'ailleurs, à l'époque de la loi contre les clients des prostituées, qui considèrent qu'une femme ne peut pas se servir de son sexe sans être une femme soumise ou une victime. Donc c'est très curieux et moi je suis assez inquiète sur la manière dont on explique ce qu'il faut aux femmes d'aujourd'hui, parce que je trouve qu'il y a une sorte de retour assez archaïque. Par exemple, j'entends notamment une sexologue qui dit que la pilule c'est pas naturel, ce à quoi je réponds oui, ce qui est naturel pour une femme c'est d'avoir 12 gosses, de mourir en couche, quoi. Donc je pense que d'une certaine manière oui, ces films là sont des films féministes. En tout cas, ceux que j'ai tournés.
Même si vous avez parlé de machisme tout à l'heure dans les scénarios.
Mais en même temps, c'est quand même des femmes libres. En revanche, la pornographie aujourd'hui, elle est très, très, très machiste. Elle n'est plus du tout féministe.
Il y a une violence qui est associée.
Mais Belle d'un soir n'est pas foncièrement machiste. C'est surtout une comédie qui, à mon avis, dans l'esprit de Claude Mulot et Didier-Philippe Gérard, voulait stigmatiser une certaine bêtise d'un mouvement féministe à l'époque. Je pense, il y a quelque chose de très sarcastique chez eux.
On pourrait parler de démouvement féministe.
Plusieurs mouvements, mais c'est vraiment une comédie grinçante comme ils aimaient faire, hein, ce binôme, avec trois femmes qui se disent libérées, qui veulent leur émancipation et qui, au bout du compte, reviennent au bercail.
Mais je pense, Christophe, que Didier Philippe Gérard n'est absolument pas macho.
Non, je crois
et
pas.
C'est,
oui.
cette rencontre entre les deux qui fait toute l'ambiguïté du film. Je n'aurais jamais imaginé qu'on allait disséquer comme ça.
Hein.
Sur France Culture qu'on peut entendre ça. Parce que moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans ce film, c'est le cri du coq à chaque fois qu'il y avait une éjaculation.
Bah, oui, ce qui est assez ridicule. Hein,
symbolique quand même. Hein. Oui, très beau.
C'est une version de l'orgasme masculin qui est tournée en dérision.
Tout à fait.
Ce qui en dit long aussi sur la grande fantaisie des bandes-son et de la réalisation de ces films. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'imagine pas qu'on mette ça, non pas à cause du propos, mais parce que c'est beaucoup plus utilitaire, les bandes-son des films porno aujourd'hui.
Quelque chose, là, Brigitte Lahaie, là, cette musique lugubre et macabre, c'est un autre, autre volet de votre carrière d'actrice avec quelqu'un qui en aime beaucoup ici, qui est Jean Rollin. Donc, c'est la musique de Philippe Daram pour le film Fascination.
Oh, c'est un coup de chapeau pour un des plus beaux fleurons de votre filmographie, Indécence 1930, alias Partie fine de Gérard Kikoïn en 1977. Et c'est un film qui montre bien aussi l'intérêt que portaient les cinéastes et aussi les spectateurs à vouloir accaparer votre corps. Vous avez souvent joué des personnages avec une certaine distance, une sorte de nonchalance, de timidité. Et là, le personnage de grande bourgeoise se retrouve contrainte à la sexualité, à des actes avec un personnage joué par Alban Seret. Il y a cette dimension-là aussi dans votre carrière de personnage qui se retrouve toujours un peu dépassé par la pornographie, à son corps défendant au début du film et puis ensuite qui se laisse aller.
C'est pas un titre pour vous, ça, son corps défendant, Brigitte
Lahaie. Oui, non, pas vraiment, mais oui, c'est un film d'ailleurs que j'ai... J'ai beaucoup souffert durant ce tournage. C'est un film, c'est un très beau film, mais c'est un film où...
C'est pour ça que vous avez fait qu'un seul film avec Gérard Kikoïn ?
Non, mais c'était difficile parce que il était très exigeant et c'est pour ça que le film est réussi d'ailleurs.
Alors on termine avec Jean Rollin.
Avec Jean Rollin, et ce qui est très intéressant, c'est que voilà, ce sont des films, Les Raisons de la Mort, c'est 78, c'est-à-dire que c'est pendant votre carrière encore dans le X. Jean Rollin, vous l'avez connu sur Vibrations sexuelles, et en fait, il fait la promesse que souvent faisaient les acteurs de Hard, les réalisateurs de Hard aux actrices, dès que je ferai un film traditionnel, je te ferai venir dedans. Et lui, il tient sa promesse.
Absolument.
Il tient sa promesse dans ce film merveilleux qu'est Les Raisins de la Mort en 1978, coécrit par notre ami qui a collaboré ici à Mauvais Genre, Jean-Pierre Bouixou, qui est une sorte de film catastrophe, de mélange de film catastrophe et de film de zombies. C'est-à-dire que le pesticide sur les vignes fait que vous devenez infecté. Et c'est une sorte de rage, mais c'est entre la rage et la zombification. Et vous, là-dedans, vous incarnez une jeune femme qui apparaît merveilleuse intacte dans son corps et vous apparaissez avec vos chiens et c'est Barbara Steele dans La Marque du Démon en 1960,
le Mario
plan débarque ça. Et ce qui est très fort, c'est qu'il me semble que Rollin vous a toujours utilisé comme étant une jeune femme, mais au-dessus des autres jeunes femmes qui l'utilisaient. C'est-à-dire que là, vous êtes une sorte de sorcière, dans Fascination, vous êtes avec votre faux, vous êtes une sorte de personnalisation de la mort, vous en parliez de ça avec lui.
Oui, je pense que Jean Rollin, enfin j'étais sa muse en quelque sorte, et je pense que il me créait des rôles, des personnages qui étaient complètement à la mesure de ce qui était pour lui l'idéal féminin au sens évidemment fantasmatique et créatif.
Là, il fait de vous une créature de la nuit, gothique, totalement dans le sillage du surréalisme.
Absolument, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect, parce que Jean m'a vraiment offert des rôles qui sont des rôles particuliers, marquants, et il m'a toujours mise en valeur, quoi.
Donc il y a Les Raisins de la Mort avec ce petit rôle, et puis il y a Fascination qui est presque un hymne à vous. Au départ, il devait faire un film porno, il a convaincu son producteur de faire plutôt un film fantastique avec de l'érotisme. Et c'est là où d'ingénu vous devenez une sorte d'incarnation de la mort, puisque vous êtes avec la faux.
C'est vrai, j'aime beaucoup ce film. Mais j'aime bien aussi La Nuit des Traqués.
Qui est le troisième film que vous faites avec lui, et qui est la version nucléaire, l'alerte nucléaire, mais qui est tournée à la défense. C'est à contre-courant de son esthétique, j'allais dire...
Fantastique, oui.
Ouais, oui, fantastique, mais créer du fantastique avec un quotidien, une sorte de presque de futurisme et d'anticipation. Malheureusement, et dans le livre, il est dit, il y a d'autres projets avec Jean Rollin qui n'ont pu aboutir. Vous avez tourné ces trois films avec lui qu'on recommande aux auditeurs.
Que nous allons terminer, à contrario de nos habitudes. Avec l'encyclopédie pratique des mauvais genres avec vous, Céline. Donc là, on ouvre ce digne volume à la lettre...
Eh bien, à la lettre H, comme Hubert, Thomas Hubert.
L'orgasme féminin ne participe pas à la reproduction de l'homme. Alors c'est quelque chose qui n'est pas utile pour la reproduction. C'est pour ça que je pense que l'orgasme féminin est quelque chose comme un luxe. Et là, ce phénomène s'approche au phénomène de l'art, qui est aussi une extase sans but. Il se suffit pour soi-même.
Thomas Hubert est un artiste suisse dont l'univers pictural, plutôt figuratif et traversé de symboles, n'est pas spécialement focalisé sur la sexualité. Mais lorsque le Centre culturel suisse à Paris lui a proposé d'investir les lieux, il a décidé de consacrer sa nouvelle exposition à la figure d'Eros et plus précisément au sexe féminin, à travers dessins, aquarelles, de grandes peintures murales. Son exposition s'appelle « Extase », comme ses sommets, précise-t-il, que l'on peut atteindre, qu'il soit religieux, philosophique ou en l'occurrence érotique. Entrons donc dans l'extase de Thomas Hubert, dont l'envie première à travers cette exposition a été de représenter le sexe comme quelque chose de beau, alors que cet organe est souvent considéré en Occident, dit-il, comme une esthétique.
Oui, il y a au contraire, par exemple, dans la culture africaine, le sexe est quelque chose qui est très visible et qui est dessiné très précis, très grand par exemple aussi. Et surtout, je trouve, les Africains donnent le sexe quelque chose, une forme qui est presque décorative sur le corps de l'humain. Et dans notre culture, surtout dans le 19e siècle, si on se souvient de Freud, qui disait bon, le sexe est quelque chose laide. Même Schopenhauer a reconnu ça et il disait c'est quand même étrange que nous admirons les fleurs, qui sont aussi le sexe, mais ça, on trouve très très beau. Alors, comme je suis artiste visuel, premièrement, tout ce qui est à voir m'intéresse. Et bon, je pense qu'un de mes devoirs, c'est que, de montrer les choses par leur beauté. Alors, ça, c'était mon attitude envers le sexe.
Alors, comment est-ce qu'on peut le montrer en beauté ?
Ça, c'est quelque chose que j'essaye dans mon exposition ici au Centre culturel suisse, dans la salle de l'exposition, des grandes collines. Et aussi des trous, l'une et l'autre, le positif et le négatif. Et les deux formes en cône sont là-dessus et appliquées presque. On peut dire, oui, le sexe féminin comme une sorte de rose ou fleur ou petite baguette, je ne peux pas très bien expliquer. Et c'est surtout, c'est répété, c'est pas seulement une fois, mais c'est une sorte de décor. Alors, ce colline de Vénus, on pouvait dire, se représente comme un décor.
Ces paysages oniriques et géométriques formés de cônes aux teintes délicates, rose pâle ou vert d'eau sont autant d'hymnes à la jouissance féminine. À découvrir dès à présent au Centre culturel suisse à Paris, et ce jusqu'au 2 avril. Extase, c'est aussi le titre d'un très beau livre de Thomas Hubert qui accompagne son exposition, livre qui réunit des dessins extraits de ses carnets de croquis conservés depuis 1972 autour du thème de l'éros.
Réaction, Brigitte Lahaye, sur l'art de Thomas Huber, Extase.
Ben, je suis toujours assez surprise les hommes qui parlent de l'orgasme féminin. Voilà. Mais bon, c'est joli, hein, mais en même temps, c'est pas, je ne trouve pas ça très féminin. Il y a plein de phallus, là.
Mais non, ce sont, regardez, ce sont des petits vagins.
Bien sûr, bien sûr.
Défendez votre champion. C'est une fontaine. Moi, de fontaine du Chénet.
Eh oui, donc des sujets auxquels on est très sensible.
Ça ne me paraît pas être très féminin, mais bon, après, c'est un artiste.
Mais c'est bon quand même que les hommes parlent de l'orgasme féminin, ça veut dire qu'ils y sont sensibles, que ça les intéresse, voire que ça les fait jouir eux-mêmes.
Oui, mais ils en parlent souvent très mal. C'est ça le problème.
Il faut les aider, les malheureux. Merci Brigitte Lahaye d'avoir été ce soir l'invitée de Mauvais Genre. Je recommande évidemment le livre d'or qui vous est consacré aux éditions Glénat, signé Cédric Grandguillot et Guillaume Ledicèze. Brigitte Lahaye, les films de culte. On peut signaler également votre émission chez Sud Radio.
Tous les jours, de 14h à 16h, du lundi au vendredi, absolument.
Ah bien, ben on vous écoutera.
Et on parle de l'orgasme féminin.
Très bien, ben on sera à l'écoute. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Pascal Bénard, Claire-Martin Dugard, Chloé Leblond, Céline Duchesnay, Philippe Rouillet, Christophe Bir et François Angelier vous remercie d'avoir suivi ce Mauvais Genre. On se retrouve samedi prochain pour une incursion. Nos célèbres émissions en visite. Mauvais Genre sera en visite samedi prochain chez le cinéaste Bertrand Mandico. D'ailleurs, c'est pas loin de Jean Rollin. Et puis un événement interne et externe. Le prix SCAM qu'ont reçu Céline Duchesnay et Laurent Polleret pour
la série qu'on a fait cet été sur les animaux, Pas si bête, chronique du monde sonore animal. Donc nous sommes allés à Brest la semaine dernière pour recueillir ce beau prix au festival Longueur d'onde.
Voilà, oui, oui. Très bien. Bah, écoutez, toutes nos félicitations et nous sommes fiers de cette récompense. On ne quitte pas l'antenne de France Culture et l'on retrouve Amaury Chardot pour Métronomique, ce soir consacré au paranormal. Thank you.
Ravenna.